Priorité santé. Claire Hédon.
Je vous propose aujourd'hui une interview de Bill Gates, l'homme le plus riche du monde, cofondateur de Microsoft. Il a lancé il y a plusieurs années une fondation humanitaire, la fondation Bill et Melinda Gates, qui consacre chaque année 4 milliards de dollars à des actions dans le domaine du développement, dans la santé, l'agriculture et l'éducation. Il y a 2 ans, vous le savez, j'avais rencontré Melinda Gates. Nous avions parlé de la lutte contre la mortalité maternelle et de l'accès à la contraception dans les pays en développement. Aujourd'hui, avec Bill Gates, nous allons nous intéresser à une autre action de sa fondation, la lutte contre les maladies tropicales négligées. En effet, Bill Gates était mercredi à l'Institut Pasteur à Paris pour une rencontre des membres de l'Alliance contre les maladies tropicales négligées. L'objectif étant de faire le point sur les avancées dans ce domaine. Constitué à Londres le 30 janvier 2012, ce partenariat rassemble notamment 13 laboratoires pharmaceutiques, la Banque mondiale, les structures d'aide au développement des gouvernements américains et britanniques et la fondation Bill et Melinda Gates. Les maladies tropicales négligées touchent 1 personne sur 6 dans le monde, c'est-à-dire plus d'un milliard d'habitants vivant dans les pays en développement. Ces maladies, d'ailleurs, n'attirent guère les bailleurs de fonds, en grande partie parce qu'elles sont rares dans les pays riches. Elles touchent les populations les plus pauvres et les plus vulnérables. Alors, dans la déclaration de Londres, il y a 2 ans, l'Alliance s'était donné l'objectif de contrôler ou d'éliminer, d'ici à la fin de la décennie, 10 de ces maladies tropicales négligées. Je vous les cite toutes, vous allez d'ailleurs voir qu'elles ont des noms absolument incroyables. Filariose lymphatique, oncocercose, c'est-à-dire la cécité des rivières, le trachome, l'helminthiase, il s'agit de vers intestinaux transmis par le sol, la bilharziose, la lèpre, la leishmaniose viscérale, la maladie de Chagas, la trypanosomiase humaine africaine, beaucoup plus connue sous le nom de maladie du sommeil, et la maladie du vers de Guinée. Le rapport publié mercredi dernier fait le point sur les avancées dans ce domaine. De nouveaux partenaires ont d'ailleurs rejoint cette initiative, notamment la Children's Investment Fund. Et dans cet entretien avec Bill Gates, nous avons commencé par parler des progrès dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Good morning, Bill Gates.
Good morning.
Où en est-on 2 ans après la déclaration de Londres sur le terrain des maladies tropicales négligées?
Well, 2 years ago.
Il y a 2 ans, un certain nombre de partenaires se sont réunis et ont décidé d'investir davantage de moyens et d'innovations dans le traitement de ces 10 maladies. L'annonce par les entreprises pharmaceutiques qu'elles feraient des dons en grande quantité des médicaments les plus utilisés a également marqué les esprits. Le programme de distribution massive de médicaments, qui consiste à aller distribuer les médicaments directement aux populations, concerne 5 de ces 10 maladies. Grâce à ces donations, aujourd'hui, tous nos donateurs peuvent voir qu'ils doivent maintenant financer des programmes de livraison de médicaments. Et en fait, nous avons gagné en efficacité sur ce point dans notre travail avec les pays africains avec lesquels on élabore un mapping pour savoir quelles sont les différentes maladies qui les touchent. Et du coup, au lieu d'agir ponctuellement contre l'oncocercose ou la schistosomiase, on peut préparer les médicaments pour n'importe laquelle de ces 5 maladies en fonction de celles qui touchent réellement les populations.
Vous avez besoin de nouveaux partenaires pour ce projet. Vous avez rencontré François Hollande hier. Va-t-il donner plus d'argent pour la lutte contre les maladies tropicales négligées?
Well, France has given a lot.
La France a beaucoup donné au fil des années à l'échelle européenne. Elle supporte le DNDi, l'initiative pour des médicaments pour les maladies négligées, et l'Institut Pasteur, qui travaille beaucoup sur ces questions. Elle a même annoncé un petit don supplémentaire au DNDi. C'était gentil de la part des Français de le faire au moment où on organise cet événement pour montrer leur solidarité et leur implication dans ce secteur.
Mais vous l'avez dit vous-même, c'est une petite somme. N'attendiez-vous pas un montant un peu plus conséquent de la part de la France?
Non, la plupart de nos prévisions budgétaires sont calculées selon des cycles pluriannuels. Donc, à l'heure de faire un bilan des progrès, on n'a pas dit aux gens « Hey, on va faire le point sur les comptes ». Il s'agit plutôt de faire un point sur la situation dans son ensemble. Nous avons obtenu une contribution de la Banque mondiale de 120 millions de dollars pour l'Afrique de l'Ouest. Nous avons d'autres donateurs qui apportent 50 millions de dollars pour la lutte contre les vers parasites et nos donateurs privés nous versent un total de 125 millions. Et ce qu'on montre, c'est que l'impact par dollar investi est très clair. Nous récoltons plus d'argent, et même si cela ne suffit pas à financer la distribution massive de médicaments pour ces cinq maladies partout où on le voudrait, nous approchons du but grâce à la gratuité des médicaments et à un système de livraison plus efficace.
Quels sont les prochains objectifs sur le terrain des maladies tropicales négligées? D'ailleurs, doit-on toujours les qualifier de négligées?
Well, no, I'd say we'll have to go another, you know, 4 or 6 years and make a lot more progress.
Non, il faut compter encore 4 à 6 ans et faire encore de gros progrès avant de pouvoir dire que ces maladies ne sont plus négligées. Le ver de Guinée était en voie d'éradication, mais les événements au Mali et au Sud-Soudan ont ralenti le processus. Il y a eu 148 cas l'année dernière. En ce qui concerne la maladie du sommeil, les chiffres ont beaucoup baissé. C'est un exemple formidable d'innovation, parce qu'aujourd'hui, on a un test de dépistage qui se fait par un simple frottis sanguin, alors qu'avant, il fallait faire des tests par centrifugation, puis une ponction lombaire. Tout ça nécessitait une équipe médicale et énormément de matériel. Aujourd'hui, le diagnostic est simple. Nous avons même un médicament en phase d'essai. Ça s'annonce plutôt bien. Et on peut espérer une homologation d'ici à 1 an et demi. Il s'appelle le fexinidazole. C'est un traitement par voie orale qui évitera aux patients atteints de quitter leur village pour aller se faire faire des piqûres. Il suffira de leur fournir directement une boîte de médicaments avec 10 comprimés. Cela nous permettra d'agir même en RDC, République démocratique du Congo, qui est très touchée par ces maladies et où l'acheminement des personnels soignants et du matériel est évidemment très difficile. Le projet, qui s'appelait Programme de contrôle, a été rebaptisé Programme d'élimination. Voilà la nouveauté de ces dernières semaines. Pour la plupart de ces maladies, notre objectif est de faire baisser les statistiques. Par exemple, en ce qui concerne l'helminthiase transmise par le sol, les conséquences sont très graves sur le développement physique et mental des enfants. Le seul fait de pouvoir organiser une distribution massive et efficace des médicaments ne nous a pas permis d'éliminer la maladie. Mais on a constaté une nette diminution des cas.
Les groupes pharmaceutiques ont fait des dons pour de nombreux traitements, mais les dons, ce n'est pas un système durable. Ne devrait-on pas plutôt pousser les entreprises à vendre leurs médicaments beaucoup moins cher?
Well, these donations are very long-term, very high-volume donations.
Ces donations se font sur le très long terme et en très grosse quantité. Et je peux vous assurer que ces entreprises amortissent leurs coûts. Par exemple, pour beaucoup de ces médicaments, le coût de production par comprimé a été réduit au maximum. Mais certains médicaments sont chers à produire. Certains vaccins sont aussi très chers à élaborer. Par chance, les traitements dont nous parlons aujourd'hui, l'ivermectine, la mébendazole, le praziquantel, l'azithromycine, ont des coûts de production très bas. Et comme je vous le disais, ces grandes entreprises pharmaceutiques arrivent à amortir ces coûts. Parfois, les donateurs doivent financer directement la production de médicaments quand on travaille avec une petite entreprise qui n'en a pas les moyens. Mais oui, c'est un programme qui s'inscrit dans la durée. Nous n'allons pas supprimer des choses en cours de route. Ces entreprises doivent vraiment être reconnues pour ce qu'elles font et j'admire vraiment leur travail. Beaucoup de gens ont la dent dure contre les groupes pharmaceutiques, mais pour moi, ils sont notre plus grand espoir, notamment à travers ce genre d'initiative.
La Fondation Gates soutient le développement de nouveaux traitements contre les maladies tropicales négligées, par exemple via le DNDi, l'initiative pour des médicaments pour les maladies négligées dont vous avez parlé précédemment. Ces nouveaux traitements ne sont pas protégés par des brevets. Faudrait-il aller dans ce sens? J'en suis plutôt étonnée, vu que vous avez justement construit votre fortune grâce aux brevets. Auriez-vous changé d'avis sur ces brevets?
Non, les patents sont très importants.
Non, les brevets sont très importants. Développer des médicaments coûte très cher. Et pour la plupart des maladies, il existe un marché pour ces médicaments. On peut donc adapter les prix en fonction du marché, fixer des prix plus élevés dans les pays riches, des prix moyens dans les pays émergents, et vendre au prix de fabrication dans les pays les plus pauvres. Et ça marche. Les plus pauvres les achètent à un prix modique. On peut également souvent obtenir des fonds de la part des gouvernements qui permettent la gratuité des traitements tout en arrivant quand même à financer la recherche. L'avenir de la santé, c'est quand les grands groupes pharmaceutiques pourront fournir de nouveaux traitements contre la tuberculose, de nouveaux vaccins contre le VIH. Et nous avons intérêt à ce qu'ils soient florissants et qu'ils puissent dépenser tous ces milliards. Il y a aussi des maladies qui ne touchent que les pays pauvres. Dans ce cas-là, la tarification échelonnée n'est pas possible. Et c'est là que les donateurs gouvernementaux et notre fondation interviennent. Par exemple, pour le traitement microfilaricide, qui tue le ver adulte dans des maladies comme l'onchocercose ou l'éléphantiasis. Là, on travaille avec des groupes pharmaceutiques et nos donations leur permettent d'avancer sur ce terrain. Donc, la majorité des médicaments doit être breveté, ce qui permet de financer la recherche, c'est vital. Mais quand on travaille avec les pays pauvres, on dépend entièrement des dons et on ne cherche pas à protéger quoi que ce soit.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, je vous propose une interview exclusive avec Bill Gates, cofondateur de Microsoft. Il a créé en 2000 la fondation Bill et Melinda Gates, une fondation pour améliorer, entre autres, la santé dans les pays en développement. Bill Gates était donc cette semaine à Paris. Il a rencontré François Hollande et mercredi, il s'est rendu à l'Institut Pasteur pour une rencontre de l'Alliance internationale contre les maladies tropicales négligées. Alors, dans la première partie de cet entretien avec Bill Gates, nous avons fait le point sur les avancées dans la lutte contre ces maladies tropicales négligées. Et maintenant, nous allons parler plus précisément de la présence de la Fondation Gates dans les pays d'Afrique francophone. Il semble que jusqu'à présent, la Fondation Gates soit plus présente dans les pays d'Afrique anglophone. Quels sont vos projets vis-à-vis des pays d'Afrique francophone ?
Our foundation is more disease-focused than
La Fondation Gates s'intéresse plus aux maladies qu'à des pays précis. Par exemple, nous investissons des sommes colossales pour la lutte contre le paludisme. Malheureusement, le paludisme n'a pas de barrière linguistique et il est partout en Afrique subsaharienne, comme le VIH, la tuberculose, la diarrhée et la pneumonie. Nous finançons des vaccins pour faire baisser les taux de mortalité infantile. Dans beaucoup de ces pays, à l'heure actuelle, près de 20% des enfants meurent avant d'avoir atteint l'âge de 5 ans. Donc, si nous pouvons apporter de nouveaux vaccins à tous ces pays, qu'ils soient francophones, lusophones, sans faire exception que ce soit pour la Somalie ou la République centrafricaine, nous visons tous les pays, nous pourrions ramener le taux de mortalité infantile de 20% à moins de 2%. Cela prendra plusieurs dizaines d'années et cela demandera aux pays d'élaborer leur propre système de santé primaire.
J'ai l'impression que la santé avance plus vite dans les pays d'Afrique anglophone que dans les pays d'Afrique francophone. Est-ce plus compliqué pour vous de travailler dans ces pays d'Afrique francophone ? Je pense en particulier aux pays d'Afrique centrale, notamment à la RDC dont vous parliez il y a quelques instants.
Well, landlocked African countries, a lot of them have
Beaucoup de pays sans accès à la mer sont instables et n'ont pas d'infrastructure. Donc, ça n'a rien à voir avec la langue qu'on y parle. Il y a aussi des contradictions. Le nord du Nigeria n'est pas considéré comme très pauvre selon les standards africains et pourtant, les statistiques de santé sont très, très mauvaises. Nous avons éradiqué la polio partout en Afrique, sauf au Nigeria, et c'est là d'où viennent toujours les nouveaux cas. Il y a eu une nouvelle épidémie en Somalie et une autre au Cameroun, et à chaque fois cela venait du nord du Nigeria. On y parle anglais et ce n'est pas une zone très pauvre, donc si on pouvait les aider à créer et à faire fonctionner leur système de santé primaire, on sauverait des millions de vies, et on pourrait aussi éradiquer la polio. C'est vrai que quand on voit les statistiques de santé au Niger, au Tchad, les chiffres sont vraiment, vraiment catastrophiques. Tout le monde voudrait voir de meilleurs résultats. Mais je ne crois pas que cela ait quoi que ce soit à voir avec la langue française. Évidemment, la France pourrait donner davantage et j'espère qu'elle va augmenter ses dons parce qu'on a besoin d'élèves modèles pour montrer l'exemple.
En réalité, je ne parlais pas de la langue, mais plutôt de l'aide. Il semble tout de même que les aides aux pays d'Afrique anglophone soient plus importantes que celles que reçoivent les pays d'Afrique francophone. L'aide bilatérale de la France est devenue très faible.
French ODA is about 0.45%.
En France, l'aide publique au développement est de 0,4 ou 0,5%. C'est plus que dans certains pays. C'est moins que dans d'autres. Si nous ne traversions pas une crise financière, l'objectif d'atteindre les 0,7% aurait dû être concrétisé aujourd'hui. Le Royaume-Uni a atteint 0,7% et c'est assez incroyable. En parlant avec le président, j'ai été agréablement surpris d'apprendre que cette aide va être maintenue malgré les restrictions de budget actuelles. C'est une belle victoire pour nous et nous espérons que l'économie va bientôt se redresser pour pouvoir demander une augmentation de ces aides. Si on regarde le total des dons aux pays francophones, on s'aperçoit qu'ils sont à peu près équivalents à ce fait dans les autres pays. Mais il y a des crises. Ça entraîne parfois une augmentation des aides. Le Sud-Soudan en a reçu énormément. Parfois, les gens sont si impressionnés qu'ils ne savent pas comment aider ni comment faire une contribution financière. De très nombreux donateurs non francophones envoient de l'aide à ces pays. À chaque fois que les gens ont la possibilité d'aider dans une optique purement humanitaire, ils vont le faire sans chercher à savoir quel pays a colonisé l'autre.
Le budget annuel de la Fondation Gates, dites-moi si je me trompe, est quasiment celui de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Cela veut-il dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est vous qui décidez de la santé dans le monde?
Non, there's no... What we do and what WHO do are very, very different.
Non, il n'y a pas. Ce que nous faisons n'a rien à voir avec ce que fait l'OMS. L'OMS est présente dans tous ces pays et aide au développement des systèmes de santé. Nous ne sommes pas là-dessus. Nous dépendons de l'OMS et c'est un partenaire formidable qui nous aide dans beaucoup de domaines. Nous finançons le développement de médicaments, de vaccins, la livraison des médicaments et on finance Gavi, l'Alliance pour la vaccination. Toutes ces choses que ne fait pas l'OMS. En revanche, ce que fait l'OMS est très important. Elle définit toutes les pratiques, pas nous. Nous sélectionnons des scientifiques que nous pensons capables d'élaborer un médicament contre le paludisme. C'est un pari risqué, mais nous avons décidé que nous étions bons dans ce domaine. C'est notre contribution.
Une dernière question, si vous le voulez bien. Avec votre fondation, vous luttez contre les maladies infectieuses et pourtant, vous détenez des actions dans des entreprises de l'industrie agrochimique comme Monsanto ou des compagnies pétrolières qui sont accusées, entre autres, d'avoir pollué le golfe de Guinée. Ça ne vous paraît pas un peu contradictoire d'investir dans ces entreprises et en même temps de travailler à l'amélioration de la santé dans le monde ?
Vous savez, ces investissements sont faits à travers des portefeuilles d'actions, donc ma part doit représenter quelque chose comme 0,01%. Je crois que je ne suis pas le policier de la planète qui va fureter partout, analyser tout ce que font les entreprises. Si ces entreprises ont de mauvaises pratiques, j'attends des autorités qu'elles les remettent dans le droit chemin. Vous savez, la plupart de ces entreprises dépendent beaucoup de leur image et sont plutôt prudentes dans leurs pratiques. C'est souvent les entreprises qui n'ont pas pignon sur rue, comme parfois les entreprises chinoises qui ne prêtent pas attention à ce qu'elles font. Notre rôle ici est de donner au monde un vaccin contre le paludisme, un vaccin contre la tuberculose. Nous ne sommes pas des agents de police. Et le fait que je possède ou non des actions ne va pas changer ce que je suis.
Thank you very much, Bill Gates. Vous venez donc d'entendre une interview exclusive de Bill Gates pour Priorité Santé sur RFI. Bill Gates, cofondateur de Microsoft, co-président de la fondation Bill et Melinda Gates. Il était donc cette semaine à Paris pour une rencontre des membres de l'initiative internationale pour éradiquer 10 maladies tropicales négligées. Vous pouvez réécouter cette interview de Bill Gates sur notre site internet RFI.fr dans la rubrique Priorité Santé. Vous pourrez d'ailleurs aussi la lire dans sa version écrite. Et dans la deuxième partie de Priorité Santé, nous allons continuer à parler des maladies tropicales négligées. Dans 3 minutes après les informations, je donnerai la parole à d'autres partenaires de cette initiative, la Banque mondiale, un chercheur camerounais, le laboratoire pharmaceutique Sanofi et Médecins sans frontières. Enfin, pour terminer, je vous emmènerai au Burkina Faso dans un centre de recherche, le LAMIVEC, qui est basé à Bobo-Dioulasso et qui a la particularité de réunir des chercheurs du Sud et du Nord, un laboratoire de référence sur les maladies à vecteurs. On se retrouve donc juste après les informations dans 3 minutes.